Thérèse d'Esquerou de François Mauriac. C'est un des chefs-d'œuvre du siècle, hein, pour moi. Donc, un petit livre, hein, 120 pages, c'est loin d'être le seul livre qui a fait la gloire de Mauriac, mais je pense qu'il a quand même beaucoup intrigué. Parce que c'est vrai que c'est un petit chef-d'œuvre, hein, il s'enfonce dans l'âme humaine, je dirais, avec ce livre. Et une femme en plus, mais il y a ce côté d'aller au fond de ce qu'il y a de plus noir. Et en même temps, c'est pas l'objet. Finalement, c'est par-delà la morale. Bon, je vais m'expliquer. En gros, donc l'histoire, c'est une femme qui a tenté d'assassiner son mari, qui a échoué. Et le livre se passe après cette tentative. En gros, c'est ça. Bon. Et alors, on se demande pourquoi. Enfin, elle se demande pourquoi. Surtout elle, d'ailleurs. Elle se demande pourquoi pour pouvoir se justifier. Alors, c'est un livre, je dirais, que dans son temps, il a été écrit première moitié du siècle. Hein. Mais... j'ai plus la date exacte, d'ailleurs ce serait bien que je la trouve. Ouais, ce serait bien. Alors les tic tic tac. Donc le premier film de Thérèse d'Esquerou, c'était en 64 par Franju. Alors Thérèse d'Esquerou, tic tic tac. Il faut que je trouve la date, hein. C'est important quand même. Alors, je cherche, pense bien. Encore avant ? Alors, baiser aux lépreux, tout ça, non ? Tac, tac, tac. Thérèse d'Esquerou, 1927. Voilà, il n'était pas encore académicien. Il n'a été académicien que 6 ans plus tard. Mais bon, c'est pas étonnant. Enfin, c'est pas étonnant qu'il soit devenu académicien. Il est né en 85. Donc, il a écrit Thérèse d'Esquerou. En quelle année, j'ai dit? En 27. Donc, à 42 ans. 42 ans. Ouais. Bon. Bon. Bref, en tout cas, un livre merveilleux, hein, terrible et merveilleux. Par exemple, j'aime pas ce qui est écrit par contre à l'arrière du livre. C'est vraiment du parisianisme stupide. Presque du colonialisme parisien, c'est ridicule. Il est écrit province. Alors c'est écrit par François Mauriac, hein. C'est sur la page, sur la couverture à l'arrière. Quatrième de couverture, non, ça c'est pas ça. Bref. Pardon. Province, terre d'inspiration, source de tout conflit. La province oppose encore, contrairement à Paris. C'est ridicule. La province oppose encore à la passion les obstacles qui créent le drame. L'avarice, l'orgueil, la haine, l'amour, à chaque instant épiés, se cachent, se fortifient de la résistance qu'ils subissent. La passion s'accumule dans les cœurs. Alors province, hein, donc ça va de Lille à Tamanrasset à l'époque, de Lille à Brest, Clermont-Ferrand, Nice, Biarritz, enfin la province quoi. C'est vrai que c'est différent, hein. Les hommes sont différents, ça c'est ridicule. Enfin bon, on peut pas lui en vouloir pour ça, quand même, ce serait trop réducteur. Mais c'est vrai que c'est con. Mais bon, au-delà de ça, si je veux être un peu honnête. Derrière les mots, faut voir l'œuvre. Et l'œuvre, effectivement, Thérèse d'Esquerou, ça se passe. Alors, j'allais dire en Vendée. Enfin, non, dans les Landes, Charente, maritime. Et un endroit très paumé, en fait. Voilà, c'est surtout ça. C'est vrai qu'on n'est pas dans. On n'est pas du tout dans un espace rural, urbain. C'est très rural. Il y a une faible densité humaine, et c'est important dans le livre, effectivement. Il y a ce côté alors parisien aussi, parce que on se sent que c'est comme enfermé dans la nature. Enfin bon, il y a ce côté-là, un peu, personne. Il y a un gros contraste entre la ville et l'endroit où se passe 99% du roman. Donc c'est aussi ça qu'il faut entendre par province. En gros, c'est la nature, alors campagne. Bon, là, c'est des pins. Donc c'est même pas des cultures. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un peu isolement. La campagne, c'est quand même une nature travaillée. Là, c'est des pins. C'est pas, on y chasse seulement. Donc c'est quand même, c'est vrai. Il y a ce côté un peu plus voilà. Cela dit, bon bah alors il faut qu'il change le mot quoi. Province, terre d'inspiration, c'est con. C'est pas province. Forêt. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas province quoi. Parce que je pense pas que Lyon, Marseille soit bon. Bref. Enfin, ça c'est mon point de vue. Alors, l'histoire, quand même, j'explique. Alors, c'est super bien construit, je trouve. Il y a vraiment une idée, là. Enfin, moi je trouve que c'est bien construit. C'est sans doute pas révolutionnaire, hein, mais en tout cas, c'est bien construit. Parce que ça se passe... On a une vue, on commence par avoir une vue subjective de Thérèse d'Esquerou qui sort de son procès. Elle est acquittée. Ou, enfin, non-lieu, quoi. Voilà, bon, très bien. Elle est acquittée. Donc ça commence comme ça, et elle est encadrée par son père, Monsieur Larocque, elle donc mariée à Bernard d'Esquerou. Alors encadrée par son père et l'avocat, et elle rentre chez elle, chez Bernard, donc son mari. Et c'est en fait on a ces états d'âme, c'est, je sais pas, peut-être la moitié ou un tiers du roman. Mais qui est petit, hein, je l'ai dit, où elle imagine son retour. Et elle essaye de trouver les mots avant de revoir Bernard pour lui dire, pour se justifier en fait, pour se justifier. Alors on peut le voir comme ça. Elle veut se justifier. Elle veut s'expliquer. Alors, au plus extrême, on pourrait dire qu'elle veut trouver une excuse. Mais, à l'autre bout de la chaîne, on peut se dire qu'elle veut même pas justifier, elle veut simplement exister aux yeux, enfin, exister dans sa complexité aux yeux de son mari. Exister complètement, avoir montré ce qu'elle est au fond. Ce qui n'est pas du tout pareil, effectivement. Parce qu'au fond, c'est pas qu'elle veut... C'est un besoin, c'est-à-dire qu'elle veut être connue pour ce qu'elle est. Et après, bon, le cran d'après, c'est la relation qu'elle a avec son mari, où elle veut... Cet homme, il veut se blinder de certitude, et ça, elle le supporte pas. Et donc, quelque part, elle veut entamer ça aussi. Bon, ça, c'est pas vraiment dit à ce moment-là, mais... Elle veut entamer ses certitudes, elle veut amorcer un dialogue, quoi. Mais un dialogue de fond, un dialogue où on échange vraiment d'âme à âme, quoi. Moi, je le sens comme ça. Bon, alors, donc elle se prépare. Et puis très vite, et c'est là que ça devient, je dirais, c'est vraiment dans l'air du temps. Comme d'autres romans, j'ai avec Radiguet, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, dans un autre, pour le bal du comte d'Argel. On est dans l'époque psychanalytique, hein, et là on sent encore une tendance, parce qu'elle se demande, elle se dit mais d'où vient la raison pour laquelle j'ai fait ça. En fait, si je veux être honnête, il faut remonter très loin, il faut remonter à mon enfance. Alors, elle trouve pas de raison marquante, mais elle trouve tout un enchaînement pour dire que tout était écrit. Et c'est là que c'est psychanalytique, parce qu'effectivement c'est vraiment une accumulation, c'est une construction d'un personnage, voilà, c'est ça qu'elle dit, c'est une construction d'un personnage. Alors, il n'y a pas vraiment de justification, d'ailleurs, il n'y a pas un traumatisme d'enfance clair et net, etc. Qu'est-ce qu'on sait d'elle ? Elle parle de son enfance, j'ai pas retenu grand-chose, enfin, elle est amie avec Anne de la Trave. Mais non, je suis embêté. Là, je me suis pas posé la question. Anne de la Trave, qui est la sœur de son mari, Monsieur d'Esquerou. Comment ça se fait qu'ils n'aient pas le même nom? Je suis désolé, je ne sais pas. Mais j'ai bien cru comprendre que c'est bien la sœur de Bernard, Anne. Elle est amie avec lui, avec elle. Alors, c'est une petite fille. C'est peut-être le nom de jeune fille de ma mère. Bon, j'en sais rien. D'ailleurs, le père de Bernard est absent de l'équation. Sa mère est là, la vilaine belle-mère. Mais le père, non. Bon. Bref, donc Anne est amie avec Thérèse, et pourtant elles sont très différentes. Il y en a une qui est un peu bigote, un peu qui réfléchit pas, qui aime pas se prendre la tête comme on dirait aujourd'hui, qui est pas intellectuelle et qui est un peu pétrie de morale. Bon. Et Thérèse d'Escayrou, c'est un peu l'inverse, hein. C'est la fille intelligente, que tout le monde sait intelligente, qui aime réfléchir, d'ailleurs qui va faire des études, elle est reconnue déjà pour avoir, entre guillemets, le mal en elle, hein. C'est-à-dire que réfléchir, c'est le début du problème, hein. C'est vrai que si on se contente d'obéir... Ça, c'est intéressant, hein, chez Mauriac, il a bien compris. Bon, c'est un grand écrivain chrétien. Alors moi, je veux bien, mais c'est... Je vais pas dire que c'est au second degré, mais si, c'est un peu ça. Alors pas au second degré dans le sens, non, est-ce que c'est faux, mais dans le sens, un christianisme humaniste d'un haut niveau. C'est-à-dire, on n'est pas dans une dévotion bête, hein, avec Mauriac, ça c'est sûr. Hein. C'est sans doute une évidence que je dis, bien sûr, mais bon, voilà. Alors, donc il. Je trouve qu'il a un grand recul parce qu'il dépeint son héroïne sans jugement. Par contre, il montre bien la dimension religieuse dans les rapports des hommes à leurs actes, notamment dans cette société où ça comptait effectivement. En cela, il est chrétien, mais c'est pas un. On n'a pas l'impression qu'il défend l'idée de Dieu. C'est presque l'inverse, moi, je dirais. Mais enfin, bon, c'est... Son héroïne est torturée par... pas vraiment par la culpabilité, mais elle veut comprendre. Donc elle va au fond des choses. Est-ce que... Jusqu'où... En quoi c'est mal ce que j'ai fait? Est-ce que c'est vraiment mal? Et il y a une réplique, d'ailleurs, que je crois que je... J'ai gardé où elle tout à coup elle se dit mais en fait elle est devant son mari et puis il est tellement pathétique pour elle que elle se dit mais enfin je ne vois pas en quoi ce que j'ai fait est mal, enfin c'est récent quand même dans l'histoire cette stupide valeur donnée à la vie. Il y en a plein qui s'en sont passés. Je crois qu'elle cite Napoléon dans la liste. Elle connaît, il n'y avait pas encore Hitler. Je sais pas si... Staline, je sais plus. 27, c'est quand même un peu court pour parler de Staline en exterminateur des peuples. Bref, donc voilà, vraiment, c'est impressionnant, quoi. C'est aller jusqu'à cette réflexion sur la valeur de la vie, sans, effectivement, il dit pas que c'est génial, c'est pas sad, il fait pas l'apologie de quelque chose qui peut paraître contraire aux bonnes mœurs, mais enfin, il permet de le comprendre, ce qui a dû choquer déjà beaucoup. Aller dans une pensée qui remet en cause la valeur de la vie, de toute vie, comme ça, par défaut, c'est pas anodin, c'est intéressant, Ça m'a fait réfléchir quelques secondes quand même. On peut pas lire ça et dire, ah bah oui, mais c'est qu'un effet de style, bien sûr que la vie est... Non, ça te fait vraiment réfléchir à ça. Alors donc, elle anticipe le moment où elle va voir son mari, elle essaye de trouver les mots, elle essaye parfois d'imaginer sa réaction. Il y a d'ailleurs un passage... Enfin bon, j'anticipe un peu là. Donc, c'est son voyage de retour, où elle part dans toute sa vie, où elle raconte son passé, etc. Après, quand elle grandit, elle avoue qu'elle a envie de se marier. Elle était prédestinée, hein, à épouser Bernard parce que c'était l'autre famille qui possède des terres dans le coin. Et il pense qu'à avoir un grand domaine, quoi. C'est pathétique, hein. C'est vraiment Elle dit que ça fait partie d'elle, hein. Elle a toujours été passionnée par la possession de la terre, des arbres. que c'est, elle a été élevée là-dedans, mais en plus ça c'est entre, c'est quelque chose qui l'a complètement guidée, qui l'a passionnée. Donc elle avait envie de ce mariage. Elle voulait, c'était une étape. Elle voulait être une partie d'elle-même. Voulait être la femme accomplie qui se marie, qui a l'argent, enfin qui a l'argent. Pas pour l'argent, mais qui a le, qui a des terres et qui, en plus, une IAC de son mari ont un très grand domaine, des hectares et des hectares, des centaines d'hectares, je crois. Bon, c'est pas des terres très riches, mais quand même, c'est les bourgeois du coin. Alors elle l'épouse. Elle l'épouse. Et très vite, le dégoût. Alors, là aussi, c'est quand même assez dingue, ça. C'est, moi, ça me... Enfin bon. Donc elle raconte ça. Enfin, c'est assez bizarre, parce que c'est une écriture très sensuelle de la part de Mauriac. On a l'impression... L'air de pas y toucher, il parle de, du corps, il parle de... La... C'est bizarre. En gros, c'est pas une femme qui a vu des expériences avant, hein, loin de là. Donc elle était... était vierge, mais sans avoir parlé de... C'est là que c'est pas tout à fait cohérent, peut-être, mais bon, enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire que il n'a pas dépeint Thérèse comme une femme qui a eu une... qui a anticipé ce qui allait se passer, qui avait des désirs, qui avait une vie psychique, érotique, forte, qui avait... etc. Ça, pas du tout. Ou alors, il a dit tellement finement que ça m'a pas percuté, parce que bah, dans notre culture aujourd'hui, il faut en dire beaucoup pour que... À l'époque, il suffisait de quelques allusions, peut-être. J'ai pas compris, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, il a pas dépeint Thérèse comme une femme qui attendait beaucoup de ce côté-là. Mais par contre, il décrit pas mal la grande... Pas la déception, parce qu'encore une fois, il y avait pas vraiment d'attente, mais en tout cas, le dégoût, hein, on peut en parler comme ça, le dégoût qu'elle ressent dans l'intimité de son mari, et puis la... Donc c'est là que je trouve qu'il n'est pas vraiment crédible dans son rôle d'écrivain qui rentre dans la peau de Thérèse. Peut-être que là, il y a un petit truc, parce que finalement, il dépeint le mari, mais de l'extérieur. On n'a pas l'impression qu'il dépeint de l'intérieur de Thérèse, parce que il n'est pas comme un spectateur fin, mais un homme en plus d'ailleurs, et pas une femme, parce que... Il parle pas des attentes de Thérèse, il parle pas vraiment... Par contre, il parle du fait que... ouais, l'hypocrisie de Bernard, quoi. Alors ça, voilà, le bon bourgeois qui est très docte, qui est très savant sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Ça ne se fait pas, etc. Un spectacle, une allusion sexuelle, tout ça. Bon, alors là... Et qui, dans l'intimité, a priori... était se lâchait, enfin avait beaucoup moins de tabous. On a le droit de faire des choses, mais il faut pas en parler. Bon, ça énerve Thérèse. Ça, d'accord, mais c'est plus une critique sociale du bon bourgeois, quoi. Mais c'est pas une critique de l'intérieur, une critique subjectivement vécue par Thérèse. Là, c'est pas la même chose, tout à fait. Mais bon. Ouais, c'est vrai, c'est une petite limite, là. Du coup, Thérèse, voilà, elle fait une critique sociale du bourgeois qui a des besoins, qui a des fantasmes, etc., qui condamne en public, et puis derrière, voilà. Bon. Sans décrire quoi, ça ne rentre pas dans les détails, quand même, hein, c'est en 1927, c'est Mauriac, c'est pas... voilà. Donc... Mais en tout cas, on sait qu'elle est dégoûtée de ça. Alors elle fait la morte en plus très vite, donc très vite ça va énerver Bernard, hein, sans qu'il puisse en parler bien sûr. Hein. Mais elle qui fait la morte, c'est vrai que ça doit être assez. Et en plus elle raconte, il y a un passage, je crois que je l'ai saisi, je crois que je l'ai pris, mais quand à la fin de l'acte amoureux, comme elle lui renvoie une image de morte là et. Et lui, juste avant son plaisir suprême, tout à coup, il est saisi par le contraste et par l'image qu'elle renvoie, et ça l'empêche pas, mais a priori, ça le heurte, quoi. Faudrait voir si j'ai le passage, en tout cas, c'était bien. Moi, je dirais que c'est plutôt juste après, mais enfin, bon, éventuellement, mais juste avant, ça m'étonne un peu, quand même. Bon, là, c'est pour le coup, il se serait pas mis dans la peau d'un homme. Pauvre Mauriac, ni homme ni femme, c'est pas facile. Mais enfin, il fait bien un peu les deux, par contre. Au niveau psychologique, il est pas mauvais. Bon. Alors, elle imagine son retour, voilà. Donc là, elle se rappelle toute sa vie, hein, j'ai dit. Donc, son mariage, son dégoût, tout ça, bon, je passe les détails. Elle est contente parce qu'elle va être la sœur d'Anne, maintenant, son amie. Très bien. Et puis tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en voyage de noces, peut-être, je sais plus, et il reçoit une lettre, Bernard, de la mère de Bernard, parce que Anne est tombée amoureuse. Mais pas de celui qu'elle devait épouser. Le fils, celui qu'elle devait épouser, c'était le fils d'Aiguillem, je crois. Un autre bourgeois du coin. C'était prédestiné, tout ça, voilà. Et c'est peut-être la cousine, Anne, hein, peut-être. Enfin bon. Ce qui expliquerait les noms. Bref, donc, elle est tombée amoureuse de Jean Azevedo. Alors, ça fait un tollé pas possible dans la famille, parce que Jean Azevedo aurait un grand-père juif, je crois, un truc comme ça. Enfin, bon, bref. Et à l'époque, donc, il est traité de juif, quoi, tout simplement. Et puis, donc, juif, donc, c'est pas bien. Donc, évidemment, on peut pas... Bon. Puis, surtout, puis il n'est pas du même monde, hein, non plus. Il n'est pas assez riche, pas assez bourgeois. Et donc voilà, c'est une mésalliance, tout ça, voilà, pas bien. Voilà. Il va falloir empêcher Anne de continuer avec cette lubie-là. Voilà. Très bien, alors Bernard dit à Thérèse, bon bah tu feras ça. Thérèse, s'en fout au départ, elle dit bon bah qu'est-ce que tu veux, tu crois que vous voyez mieux que lui, enfin un truc comme ça, bon. Puis très vite, bon, elle se tait, parce que de toute façon, à quoi bon dire les choses qu'elle pense. Bernard se contente de dire, oh, arrête avec tes mots d'esprit, idiot, enfin bon, tu vois, bon, il comprend rien, quoi, donc elle arrête. Mais ensuite, je crois qu'elle a des lettres, je crois qu'elle a le témoignage de d'Anne. Et là, il y a un choc. C'est ça qui peut-être s'est fait, c'est vrai, nous commence à nous dire un peu plus qu'elle a des attentes, Thérèse, des attentes de femme, ce qu'on n'avait pas avant. Peut-être parce qu'elle n'y avait pas pensé, c'est vrai. Peut-être que c'était une sorte de zone d'ombre un peu dans sa pensée, mais en tout cas, là, on sait qu'elle a des attentes et... parce qu'elle elle découvre la folie amoureuse d'Anne... Enfin, la passion amoureuse d'Anne, et ça la rend malade, malade de jalousie. Et elle se dit, bah ok, bah, puisque moi j'ai pas ça, bon, elle se le dit pas aussi clairement, mais quasiment, hein, puisque je l'ai pas, je veux pas qu'elle l'ait. Voilà, sublime. Donc, elle a pour mission de la part de Bernard et de la mère de remettre Anne sur le droit chemin. Donc, une fois rentrée au pays, elle lui parle. Mais là, elle essaye de jouer un peu double jeu. Et elle essaye ensuite de voir Jean Azevedo pour le détourner d'Anne. Alors que pour Anne, elle voit Jean pour aider leur amour. Donc, déjà là, double jeu. Et elle rencontre Jean Azevedo un peu par hasard, je crois. Et là, Jean, elle a un choc, quoi. Une sorte de... Alors c'est marrant, c'est assez marrant, parce que, en gros, il y a encore une fois double personnalité. Comme je disais avant, il y avait déjà une Anne intellectuelle qui rêvait de Paris un peu, etc. Puis en même temps, la bourgeoise qui veut avoir qui veut se marier, puis qui veut avoir des terres, des pins, etc. Là, il y a encore un choc entre Anne, la lucide, intellectuelle, etc. Et son rapport à l'attirance, tout simplement, parce que devant Jean Azevedo, qu'elle trouve pas si beau que ça, bah elle le trouve beau aussi, enfin, pas si beau que ça, c'est ça, quand on se dit pas si beau que ça, finalement, bon, enfin, quand même, il est beau, il a de beaux yeux, etc., bon, voilà, en fait, il l'attire, et il l'attire beaucoup, et puis surtout, il parle, alors c'est pas un bonnet, alors c'est ça surtout la grosse différence, c'est que Bernard, il a une certaine culture Mais c'est pas vivante du tout, c'est-à-dire que c'est vraiment académique et ça n'a aucune réflexion, c'est un homme qui n'aime pas penser. Mais il a une culture. Alors que Jean Azevedo, c'est quelqu'un qui parle et qui réfléchit et qui remet en cause le monde et donc. Alors, leur discussion est intéressante. Elle commence à l'attaquer assez directement, hein, disant, enfin, comment osez-vous faire espérer des choses à Anne? Non, comment vous espérez quelque chose d'Anne? Puis il dit, mais non, mais j'espère rien, je veux pas me marier avec elle, on passe un bon moment, c'est tout. Voilà. Et puis après, elle aura une vie pour s'enterrer, moi je lui donne un peu de bonheur avant qu'elle s'enterre toute une vie. Ouf! Ok, bon bah, il n'y a même pas besoin de le convaincre, il a aucune envie d'épouser Anne, très bien. Alors ça, c'est terrible, hein, parce qu'on imagine Anne derrière. Et puis Thérèse et Jean se revoient pas mal. Alors officiellement, c'est pour discuter de la façon dont ils vont détourner Anne de lui. Et donc ils écrivent ensemble une lettre qui sera envoyée par Jean à Anne. Pour dire au revoir, quoi, pour dire que tout arrête, et voilà. Et que Jean, lui, il a envie d'une vie de toute façon plus excitante, il veut aller à Paris. Il sous-entend que s'il n'y avait pas tout ça, avec Anne, avec Thérèse, ça aurait été possible. Que si elle était assez libre pour venir avec lui à Paris, peut-être que ce serait possible. Je crois qu'il y a ça à un moment, hein. Donc ça reste dans la tête de Thérèse aussi, ça c'est important aussi, c'est la petite pierre en plus, hein. Mais eux ne vont rien faire, hein. Ça va rester platonique. En plus, Thérèse est enceinte à ce moment-là. D'ailleurs, elle le vit pas très bien parce qu'elle sent bien qu'elle n'existe que par ça. Elle est choyée uniquement par ça. Elle existe en tant que mère porteuse, quoi. Mère porteuse de l'héritier. Alors ça lui plaît pas du tout. Et bon, bref, donc pas heureuse. Voilà, donc Jean envoie la lettre à Anne. Anne est complètement. C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Elle est en grande souffrance. Elle en veut à Thérèse parce qu'elle commence à comprendre. Elle s'enfuit. Finalement, elle est rattrapée. Puis finalement, elle est quasiment séquestrée par sa famille alors que Thérèse termine sa grossesse. Au moment où Thérèse accouche, Anne va montrer un peu plus de vie. Elle s'intéresse à Marie. Elle s'appelle Marie, la petite, finalement. Petite déception un peu parce qu'ils auraient préféré un héritier, mais enfin bon, pas trop forte. Et mais Thérèse est déjà très loin là, elle s'attache plus à rien. Voilà. Et alors pourquoi? Alors là, elle n'est pas encore retournée chez elle, hein. Et elle se demande ensuite comment elle en est venue à assassiner son mari. Enfin, à petit feu, parce qu'en fait c'est ça. Il devait prendre des gouttes pour le cœur. Son mari était un hypochondriaque, oui, c'est ça. Donc, c'est toujours malade, toujours peur de. Hein, bon monde paysan, en fait, hein, on a peur de ne pas être bien, on se méfie. Hein, on guette la petite atteinte, là. Et donc, il a peur de ne pas être bien, et du coup, il a peut-être aussi des choses, hein, mais en tout cas, il prend des médicaments, des gouttes pour le cœur, je crois. Et je crois qu'il y a de l'arsenic dedans. Mais à petite dose, et puis c'est. Voilà, puis c'est peut-être que. Peut-être que ça faisait déjà un peu de mal à l'époque, mais enfin bon, à petite dose. Mais le dosage est très important quand on prend du poison. Or, à un moment, il se demande toujours, j'ai pris mes gouttes, et puis il dit ça dans une journée assez agitée de chasse, je sais plus. Thérèse le voit mettre ses gouttes, puis elle se dit, bah oui, il les a déjà prises, mais elle le voit en remettre, et elle ne dit rien. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, je trouve que c'est très intéressant. Elle se laisse emporter, elle le voit mettre, et puis elle ne dit rien. Donc c'est pas un acte actif, elle se contente de rien dire. Alors bien sûr, on peut dire que c'est pareil, elle aurait pu se précipiter et dire « Non, tu as déjà pris tes gouttes, je le sais. » Sauf que son désir inconscient de voir son mari disparaître, parce qu'elle en avait ras-le-bol de se... Enfin, elle le haïssait, hein. Oui, c'est... Son désir inconscient de le voir disparaître, eh bien, c'est lui qui retient l'action, ce désir-là. Mais il retient l'action à son insu un peu, c'est-à-dire que c'est le fait qu'elle ne dise rien qui rend consciente son envie de voir disparaître son mari. Et pas la conscience de l'envie de voir, d'avoir envie de faire disparaître son mari. qui lui dit non, donc ne fais rien. C'est l'inverse. C'est... Elle se rend compte que, bah, un peu surprise qu'elle a rien dit. Mais elle est surprise, près, quasiment. Donc c'est là qu'on est dans, je dirais, on est dans l'après-Freud. Et c'est intéressant. Alors, par contre, après, bien sûr, elle va enchaîner, quoi. C'est-à-dire que elle va en rajouter. Elle va en rajouter régulièrement. Et lui sera de plus en plus malade. Bon, je suis pas sur les détails. Il n'est pas très loin de mourir. Et puis les médecins finissent par comprendre d'où ça vient. Et elle a le procès. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, elle a été innocentée par Bernard, par son père à elle, par tout le monde, alors qu'ils savent très bien qu'elle est coupable. Mais il faut protéger l'honneur de la famille. Donc, on ne dit rien. Et témoignage, faux témoignage, etc. Tout va bien. Seulement, elle sait que tout le monde sait. Et c'est dans ces circonstances qu'elle s'apprête à rentrer. Alors, elle a l'envie un peu de tout expliquer, mais bon. Elle sent bien que ça va pas être possible. Effectivement, elle arrive dans la pièce, elle rejoint enfin Bernard, donc là, on arrive enfin, on a rattrapé le présent, et elle est en face de Bernard dans le salon. Et là, il y a un silence entre eux, elle s'assoit, lui, il est debout, il fait un peu les 100 pas, ou il est près de la cheminée, j'ai plus, et puis elle sait plus quoi, par quoi commencer, puis lui, il n'a pas encore pris la parole non plus, donc, puis elle finit par dire... Bernard, elle vient de trouver pour elle une solution assez simple. Elle voudrait partir finalement et laisser tranquille Bernard et ne pas le déranger, quoi. Donc, c'est une idée comme ça qui lui vient. Elle lui dit, mais finalement c'est ça évidemment. Et elle lui dit, Bernard, laissez-moi disparaître. Et il aurait pu... En fait, à chaque fois, c'est ça qui est terrible, c'est qu'à chaque fois, s'il avait bien réagi, ça aurait tout changé. Mais il est ce qu'il est, et elle est ce qu'elle est, et il n'a pas bien réagi, bien sûr. Il a très mal réagi. Il s'est contenté de dire, comment osez-vous émettre la moindre volonté, la moindre avis, la moindre décision, le moindre... Vous allez vous conformer à tout ce que je vais vous dire, point. Et voilà, c'est parti. Donc, il sort un papier, et il commence à lui dire tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, en fait, c'est pas... C'est atroce, quoi. C'est chantage. Alors, Thérèse doit... Elle aura plus accès à la maison, quasiment. Elle sera dans sa chambre, point. Dans sa chambre, c'est tout. Elle aura le droit de sortir, mais elle aura plus le droit de se promener dans la maison. Elle aura de sortir dans les bois, se promener, tout ça. Bon. Mais c'est tout. On lui apportera ses repas. Lui, il sera très peu là. Il sera ailleurs, en voyage ou dans une autre propriété. Enfin, c'est Argelouze, ça se passe. Alors, donc il lui impose comme ça une sorte de diktat, là, terrible, hein, terrible, parce que elle a plus de vie, hein, plus rien. Et puis l'obligation, c'est d'aller à la messe tous les dimanches à son bras et de faire bonne figure pour que tout le monde sache que tout va bien et qu'il n'y ait pas de doute dans le, parce que bien sûr tout le monde jase, hein, dans le pays. Alors elle accepte, Au début non, elle dit non, je m'enfuis. Hein. Puis il dit, mais non, si vous faites ça, je reviens sur mon témoignage. Et là, vous irez en prison. Peut-être même vous serez exécuté. Et là, il se dit, mais non, vous n'avez pas risqué ça, vous perdrez tout, l'honneur de la famille et tout. Et lui, il dit, mais non, contrairement à ce que vous pensez, si vous partez, et que nous, on avoue, autant tout couper, autant, puisque si vous partez, ça fera un scandale aussi, donc autant... autant bien dire que on se détache de vous, qu'on vous renie complètement. Et comme ça, notre honneur sera protégé. Donc, on n'hésitera pas à le faire, contrairement à ce que tu penses, Thérèse. Ouf, donc Thérèse, là, elle est embêtée, là, vraiment. Elle est anéantie, en fait. Hein. Et alors lui, il est content. Il pense qu'il a sa petite victoire. Et alors c'est terrible, là, il y a une description de la psychologie de Bernard qui se dit que, encore une fois, il suffit de raisonner clairement et on vient à bout de toutes les situations. Il se fout complètement que sa femme ait voulu le tuer. Il fait allusion quand même à la cause pour lui, parce qu'il ne demande pas quelle est la cause. Ça, c'est terrible pour Thérèse. Elle aurait voulu qu'il se demande quand même pourquoi elle a fait un acte aussi terrible, mais non. Lui, il se contente de lui dire, vous vouliez l'argent pour vous toute seule, vous voulez toutes nos propriétés pour vous toute seule. Hein, et après, vous auriez peut-être tué de votre fille pour être la seule propriétaire de tout ça. Voilà un peu ce qu'il pensait. Alors elle est sidérée d'entendre ça, parce que ça n'a jamais été dans ses pensées. Et puis surtout, c'est d'une vulgarité par rapport à ce qu'elle pense ressentir, enfin ce qu'elle ressent, c'est cette histoire de fric, elle s'en foutait là. Donc ça l'anéantit, donc elle se dit, mais comment j'ai pu penser que je pourrais raconter quoi que ce soit à cet homme? Et bien sûr, ça n'a aucun sens, il peut pas entendre ça. Bref, en tout cas, elle est mise chez elle, dans sa chambre, là, et puis elle... Alors là, ça divague, elle s'occupe de rien, il lui donne même pas vraiment assez de livres, juste du tabac, elle est à peine nourrie par les gens qui tiennent la maison. C'est terrible, quoi, terrible. Donc elle devient famélique, et puis elle devient laide et dans un état, mais affreux, affreux. Or, à ce moment-là, Anne. Ça y est, c'est enfin fiancé au fils d'Eguillem, donc celui qui lui était prédestiné. Et cet homme-là, il veut absolument voir Thérèse. Un peu pour se rendre compte de par lui-même, peut-être. Hein. Et là, Bernard lui envoie une lettre, parce qu'il n'était pas là, et il lui dit, bon, je vous assure que vous avez intérêt à bien vous comporter. Si vous dites la moindre chose, etc., je saurai vous le faire payer cher. Voilà. Bon. Et donc ils arrivent à la maison tous ensemble et Thérèse doit descendre. Ils l'attendent tous et puis Bernard est un peu terrorisé. Et puis quand elle entre, il voit Thérèse mais hideuse, le teint jaune par le tabac, livide et puis creuse et puis rien sur les os. Enfin, terrible, une vision qui choque tout le monde. Elle explique que elle était malade et puis que voilà, puis que elle se laissait aller et puis elle a perdu l'appétit. Mais c'est pas grave. Elle minimise, elle fait son rôle jusqu'au bout, quoi. Et donc Thérèse se retrouve en face d'Anne avec Marie aussi. Non, Marie est pas là, mais on lui a retiré son gosse, hein, bien sûr. Mais alors, Thérèse s'en fout, parce que pour elle, cet enfant, c'est l'héritier des Skérou, point. Par contre, elle doit bien reconnaître que elle a eu un geste de tendresse un moment plus tôt, parce que elle a bien vu que cette fille, c'était son portrait tout craché. Donc ça lui a fait quelque chose et voilà. Alors, elle voit aussi le ressentiment dans les yeux d'Anne. Alors, imagine pas, c'est vrai, mais enfin bon que à chaque fois c'est des phrases du genre, ah, oh, on aurait pu tout lui pardonner. Mais alors pour Anne c'est, mais alors le fait de se détourner de son propre enfant, c'est pas possible. Ah vraiment, là ça c'est pas possible. Bon, comme s'il fallait plus se pardonner à ça que le fait de vouloir assassiner son mari. Bon. Et de même pour la mère. Ah, oh, on aurait pu tout lui pardonner, mais sauf l'hypocrisie. Parce qu'effectivement, quand Bernard était malade parce que Thérèse l'empoisonnait, Thérèse était prévenante auprès de Bernard, auprès de la mère de Bernard, etc. Donc là, ça, elle n'a pas digéré. Finalement, c'est intéressant, parce que là, oui, je le réalise un peu mieux en le disant, finalement, ce que les gens n'aiment pas, au fond d'eux, ils s'en foutent presque d'avoir voulu tuer, que Thérèse ait voulu tuer Bernard. Mais c'est tout ce que ça remet en cause par rapport à eux qui ne supportent pas et qui est pourtant moindre, beaucoup moins grave que l'acte de vouloir tuer Bernard. Pour la mère, c'est le fait qu'elle était roulée dans la farine parce qu'elle a cru à la bienveillance de Thérèse vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de Bernard. Donc ça la rend malade. Et puis Anne. En fait, faut voir qu'elle était. D'abord, elle en voulait à Thérèse pour le coup de Jean Azevedo. Ensuite, elle est revenue à la vie avec la naissance de Marie, qu'elle a aimée, sans doute plus que sa mère, en tout cas en apparence. Enfin, en apparence par rapport à Thérèse, parce que Anne, sans doute, a eu une affection très sincère pour le bébé. Et c'était son retour en humanité d'aimer le bébé pour Anne. Et en fait, que peut-être aussi une jalousie là, peut-être, de la part d'Anne vis-à-vis de cet enfant qu'Anne aurait voulu avoir peut-être avec Jean, peut-être. Et donc du coup, on lui en veut de pas profiter de mépriser le bonheur qu'elle a d'avoir un enfant. Et donc, encore une fois, c'est ramené à elle. C'est en ça que c'est assez intéressant. Mais surtout la façon dont Mauriac le dit, c'est. Oh, on aurait pu tout lui pardonner, mais le fait de, on aurait même pu passer sur. Mais ça, non. Enfin, j'adore ça, c'est vrai que c'est. Tout le monde dit ça d'ailleurs, hein, c'est typique. C'est typique peut-être de mauvaise foi aussi, quoi. Voilà. Bref. Donc passionnant. Donc là, elle est en face. Et puis alors, donc des Guillem, il lui parle un peu. Mais enfin, très vite, la soirée c'est courte parce que c'est atroce de voir tout ça. Donc des Guillem part. Bernard reste avec Thérèse et lui dit bon, écoute, là il a tellement eu peur, il a vu la gueule, il a dit c'est impossible, on peut pas continuer comme ça. Donc il dit après le mariage d'Anne, vous ferez bonne figure encore au mariage d'Anne et après je vous rends votre liberté. Vous aurez de l'argent. Vous disparaissez, vous allez à Paris, vous faites ce que vous voulez. Et c'est effectivement ce que décide de faire Thérèse. Thérèse revit. C'est pas vrai, je vais être libre. Donc il lui donnera une partie une rente, hein, une petite rente, puisqu'ils ont ils ont des rentes. Ces braves gens. Et donc elle pourra en vivre seule, enfin seule. En tout cas loin, à Paris. Et là, il y a une phase de transition en attendant le mariage d'Anne. Et là, c'est intéressant parce qu'ils ne se sont jamais parlé aussi bien. Bernard et Thérèse, c'est fou. Donc, elle lui raconte même sa vie, enfin, elle lui parle de ses projets, ce qu'elle va faire. Enfin, jamais ils ont pu se parler aussi bien. Bon, c'est pas pour autant non plus un couple qui est fort à ce moment-là, mais enfin quand même, bizarrement, c'est là que... une fois qu'on s'est débarrassé de toutes les angoisses, etc., il y a une phrase d'ailleurs, mais ça je le lirai, c'est dans les... Et puis, voilà, et puis dernière scène du livre, elle se retrouve à Paris, Café de la Paix, avec Bernard, elle lui a demandé, et il a accepté, il s'en veut d'ailleurs d'avoir accepté, parce que ça le fait souffrir en fait, il se rend compte que ça le fait souffrir de quitter Thérèse quand même, et il aime pas ça, donc cette scène où c'est le dernier café ensemble, il aime pas. Mais enfin bon, il est là, et ils boivent un café tous les deux à Paris, et là on peut dire qu'il craque dans le sens où sa coquille de bêtises qui est tellement honni par Thérèse, s'effrite ou se fissure et il lui demande « Mais pourquoi vous avez voulu me tuer ?» Et là, Thérèse, elle se dit « C'est pas vrai. » Enfin, il pose la question. Enfin. Elle lui dit « Mais c'est, bien sûr, c'était pour les pins. Les pins, les terres, enfin. Les pins, les... » Et puis lui, il dit, mais non, bien sûr que non, arrêtez votre bêtise, je n'y crois pas, si j'y ai jamais cru un jour. Alors, c'est ce qu'il avait dit, mais il avoue finalement qu'il n'y croyait pas vraiment. Mais il dit, alors vous me détestiez tant? Et elle a du mal à... Elle dit, c'est pas possible, comment... Enfin, il le dit, mais moi, je ne sais pas trop comment réagir, comment expliquer. Alors d'ailleurs, je me souviens plus de son autre réponse. Est-ce que je vais devoir chercher Je cherche. Alors, et elle continue sur un air un peu moqueur. Sa deuxième réponse est « J'allais vous répondre, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela, mais maintenant, peut-être le sais-je, figurez-vous. Il se pourrait que ce fût pour voir dans vos yeux une inquiétude, une curiosité. » Du trouble, enfin. Tout ce que depuis une seconde j'y découvre. Et lui, il s'énerve. Vous aurez donc de l'esprit jusqu'à la fin. Sérieusement, pourquoi? Et là, elle va un peu au fond des choses. Là. C'est pareil, là, ça redevient psychanalytique. Elle dit, un homme comme vous, Bernard, connaît toujours toutes les raisons de ses actes, n'est-ce pas? Sûrement, sans doute, du moins il me semble. Moi, j'aurais tant voulu que rien ne vous demeura caché. Elle aurait voulu s'ouvrir à lui. Mais il pouvait pas. Si vous saviez à quelle torture je me suis soumise pour voir clair, mais toutes les raisons que j'aurais pu vous donner, comprenez-vous, à peine les eussé-je énoncées qu'elle m'aurait paru menteuse. Et là, elle dit qu'en fait, c'est son inconscient qui a parlé, et qu'elle aurait voulu pouvoir ouvrir son inconscient à Bernard. Et comme elle n'a pas pu le faire, son inconscient a voulu tuer Bernard. Enfin, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle aurait voulu s'ouvrir à lui. Elle n'a pas pu. Et la façon dont elle s'est ouverte à lui, finalement, pour être aimée de lui, enfin, pour avoir un lien avec lui, elle a tenté de le tuer. Alors après, elle explique, vous,
Voici comment cela est venu. C'était dans la salle à manger, obscure, comme toujours à midi, vous parliez, la tête un peu tournée vers Balion, oubliant de compter les gouttes qui tombaient dans votre verre. Non, mais pour qui me prenez-vous ? Il ne croyait pas. Et il n'a pas cru au fait qu'elle a laissé tomber les gouttes. Et elle-même, elle se dit que ça sonne faux. Parce que c'est pas la raison première, c'est pas la... Et là, il devient mauvais, il se referme. Et il s'en veut d'avoir voulu comprendre. Il dit qu'il n'y a rien à comprendre, vous êtes bête, c'est tout, il n'y a rien à comprendre, c'est détraqué, point. Et là, elle essaye de rattraper le coup, parce qu'elle ne veut pas terminer comme ça. Elle dit, écoutez Bernard, ce que je vous en dis, ce n'est pas pour vous persuader de mon innocence, bien loin de là. Mais ça ne suffit pas. Elle rajoute pourtant, je ne me sentais cruel que lorsque ma main hésitait. Je m'en voulais de prolonger vos souffrances. Il fallait aller jusqu'au bout, et vite. Je cédais à un affreux devoir. Oui, c'était comme un devoir. Un devoir, voilà. C'est ça, c'est le jeu est un autre. C'est qu'elle obéit à qu'il y a une force en elle, c'est inconscient. Et justement, elle attaque Bernard. Bernard se veut un être qui sait pourquoi il fait les choses. Alors, on pourrait imaginer quelqu'un qui se connaît bien lui-même. Un héros socratique qui se connaît lui-même et qui fait les choses parce qu'il se connaît. En tout cas, il sait pourquoi il fait les choses parce qu'il se connaît bien. Mais elle sait que Bernard, c'est l'inverse. Il fait les choses parce qu'il ne veut pas se connaître. Parce que il a un personnage qui veut assumer. Un personnage raisonnable. Il ne veut pas lire en lui. Et c'est ça qu'elle déteste. Donc c'est une opposition énorme entre les deux. Énorme. Là, il y a un beau passage. Bernard l'interrompit. En voilà des phrases. Essayons de me dire une bonne fois pour tout, une bonne fois ce que vous vouliez. Je vous en défie. Ce que je voulais ? Sans doute serait-il plus aisé de dire ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas jouer un personnage. Faire des gestes, prononcer des formules, renier enfin à chaque instant une Thérèse qui... Point de suspension. Et là, voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est ça. Elle ne veut pas jouer un personnage comme Bernard joue un personnage qui nie son inconscient, qui serait une mécanique sociale à faire ce qu'il doit faire. Et ça, elle ne voulait pas. Mais non, Bernard, voyez, je ne cherche qu'à être véridique. Comment se fait-il que tout ce que je vous raconte là rende un son si faux ? Elle se rend compte que ça n'explique pas tout. Parce qu'elle dit qu'elle a deux Thérèse en elle. Thérèse comprenait aussi que cet homme, une seconde rapprochée, s'était de nouveau éloigné à l'infini. Elle essayait de le séduire à ce moment-là. Enfin, séduire. Elle insistait pourtant, essayait de son beau sourire, donner à sa voix certaines inflexions basses et rauques qu'il avait aimées. Mais maintenant, Bernard... Ah voilà ce qu'elle dit, c'est beau ça. Mais maintenant, Bernard, je sens bien que la Thérèse, qui d'instinct écrase sa cigarette parce qu'à rien suffit à mettre le feu aux branches, la Thérèse qui aimait compter ses pains elle-même, régler ses gemmes, la Thérèse qui était fière d'épouser un d'Esquerou, de tenir son rang au sein d'une bonne famille de la Lande, contente enfin de se caser, comme on dit, cette Thérèse-là est aussi réelle que l'autre, aussi vivante. Non, il n'y avait aucune raison de la sacrifier à l'autre. Quel autre ? Répond Bernard. Et là, Thérèse ne sait pas quoi répondre. Mais non, l'autre, c'est l'inconscient, justement. Et voilà. Ah oui, voilà, je pense que... C'est sans doute le passage pour moi le plus éclairant, celui-là. Il y a encore un passage à la fin que j'ai noté. Bah la fin, la toute fin, parce que c'est célèbre. Et puis... Alors le passage, la toute fin du livre. Hein. La route de Villandreau, le soir, entre ses pins sinistres, dire qu'il y avait une heure à peine, elle souhaitait s'y enfoncer aux côtés de Bernard. Parce qu'effectivement, elle, avant de quitter Bernard, elle dit, si Bernard... avait dit « Je vous pardonne, Thérèse », et qu'il avait ouvert les bras, elle serait rentrée avec lui, heureuse. C'est fou, encore. Qu'après tout ça, ça aurait pu se terminer comme ça pour Thérèse si Bernard avait pu être autrement. Si Bernard n'avait pas été Bernard. Je continue. Qu'importe d'aimer tel pays ou tel autre, les pins ou les érables, l'océan ou la plaine, rien ne l'intéressait que ce qui vit, que les êtres de sang et de chair. Ce n'est pas la ville de pierre que je chéris, ni les conférences, ni les musées. C'est la forêt vivante qui s'y agite et que creusent des passions plus forcenées qu'aucune tempête. Le gémissement des pins d'Argelouse, la nuit, n'était émouvant que parce qu'on l'eût dit humain. Thérèse avait un peu bu et beaucoup fumé. Elle riait seule comme une bienheureuse. Elle farda ses joues et ses lèvres avec minutie, puis, ayant gagné la rue, marcha au hasard. Voilà. Et là encore, hein, y a un peu le côté petit parisianisme de... Que la vie, c'est dans la ville, quoi. La vie, c'est les gens. C'est à la campagne, les gens, ils comptent pas, quoi. Bon, enfin, c'est parce qu'il y en a pas assez, il faut la foule. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Mais ça, c'est bon. Bref, ça c'est moi. Note du lecteur. Mais par contre, oui, c'est intéressant, c'est le fait qu'elle passe d'une la Thérèse qui dominait, c'est celle qui a épousé Bernard, qui voulait les terres, qui voulait de la bourgeoise, qui voulait son fric, enfin, qui gérait ses affaires. Et sa deuxième vie maintenant, c'est elle assume son inconscient besoin d'humain, besoin de non solitude, besoin de l'autre. Et on s'en fout de l'endroit où on est. Donc ça, c'est le gros, la grosse avancée. Alors, je vais lire quelques passages. Donc là, chronologiquement dans le livre. Alors, celui-là, ça décrit Bernard, manifestement. Bernard, ce garçon au regard désert, toujours inquiet... Au regard désert, c'est quand même terrible, ça. Toujours inquiet de ce que les numéros des tableaux ne correspondaient pas à ceux du Baedeker. Ça, je ne sais pas. Satisfait d'avoir vu dans le moins de temps possible ce qui était à voir. Quelle facile dupe! Il était enfermé dans son plaisir, comme ces jeunes porcs charmants qu'il est drôle de regarder à travers la grille lorsqu'ils reniflent de bonheur dans une auge. C'était moi, l'auge, songe Thérèse. Là, on parle de sexe. Hein. Il avait leur air pressé, affairé, sérieux, il était méthodique. Vous croyez vraiment que cela est sage, risquait parfois Thérèse, stupéfaite par les actions sexuelles de Bernard. Il riait, la rassurait. Où avait-il appris à classer tout ce qui touche à la chair, à distinguer les caresses de l'honnête homme de celles du sadique? Jamais une hésitation. Un soir, à Paris, où, sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent, Bernard quitta ostensiblement un music hall dont le spectacle l'avait choqué. Dire que les étrangers voient ça, quelle honte! Et c'est là-dessus qu'on nous juge. Thérèse admirait que cet homme pudique fut le même dont il lui faudrait subir, dans moins d'une heure, les patientes inventions de l'ombre. Les patientes inventions de l'ombre. Finalement, le plus choquant, c'est patiente. Si encore, il pouvait être impatient. Mais le fait qu'il soit méthodique et patient, c'est sans doute ça, c'est insupportable. Pauvre Bernard, non pire qu'un autre. Mais le désir transforme l'être qui nous approche en un monstre qui ne lui ressemble pas. Ça, je trouve ça étrange. C'est pas logique de la part de Thérèse. Enfin, je sais pas, elle voudrait aimer un homme de chair et ça transforme en un monstre. Oui, Bernard, pas les hommes, enfin, je sais pas. Rien ne nous sépare plus de notre complice que son délire. Ça, c'est vrai. J'ai toujours vu Bernard s'enfoncer dans le plaisir. Et moi, je faisais la morte. Comme si ce fou, cet épileptique, au moindre geste, eût risqué de m'étrangler. Faudrait savoir, il est méthodique ou épileptique? Enfin. Le plus souvent, au bord de sa dernière joie, il découvrait soudain sa solitude. Le morne acharnement s'interrompait. Bernard revenait sur ses pas et me trouvait comme sur une plage où j'eusse été rejeté, les dents serrées, froides. Et on s'étonne... dis donc, c'est affreux, hein, ça c'est sûr que c'est... Là, il est fort pour décrire l'horreur. Mais alors, morne acharnement. Il est fou, épileptique, et où il est morne. Bon, moi je trouve que... Les mots sont si jolis que on pourrait oublier de les mettre en relation. C'est vrai que c'est magnifiquement écrit, hein, là...
Magnifique. Alors, la politique d'ailleurs suffisait à mettre hors des gonds ces personnes, des bourgeois là d'Argelouse, la famille de Bernard, qui, de droite ou de gauche, n'en demeuraient pas moins d'accord sur ce principe essentiel. La propriété est l'unique bien de ce monde, et rien ne vaut de vivre que de posséder la terre. Mais faut-il faire ou non la part du feu? Et si l'on s'y résigne, dans quelle mesure? Thérèse, qui avait la propriété dans le sang, eût voulu qu'avec ce cynisme la question fût posée. Mais elle haïssait les faux-semblants dont les Laroque et les Latrave masquaient leur commune passion. Quand son père proclamait un dévouement indéfectible à la démocratie, elle l'interrompait. « Ce n'est pas la peine, nous sommes seuls. » Elle disait que le sublime en politique lui donnait la nausée. Le tragique du conflit des classes lui échappait dans un pays où le plus pauvre est propriétaire. Dans un pays où le plus pauvre est propriétaire, EST est propriétaire, n'aspire qu'à l'être davantage. Où le goût commun de la terre, de la classe, du manger et du boire, crée entre tous, bourgeois et paysans, une fraternité étroite. Ça c'est intéressant. Bon, je sais que Mauriac était gaulliste, chrétien gaulliste, humaniste, bon, sans doute, mais n'empêche. Alors du coup, je suis un peu paumé, moi, parce que... À un moment, il dit quelque chose de terrible, il dit... d'accord sur le principe essentiel, posséder la terre, voilà. Rien ne vaut de vivre que de posséder la terre. C'est comme s'il se moquait de ça. Or, c'est le fondement, effectivement, du capitalisme occidental. Bon, enfin, bref. C'est presque communiste, cette façon de se moquer, je trouve. C'est surtout à l'époque. Enfin, quoique, c'est un peu tôt pour se moquer. Mais bon, bref, il s'en moque quand même, un peu. Et puis alors après, quand Thérèse pense que ce qui rejoint les riches et les pauvres, c'est que les pauvres, ils sont juste pas assez propriétaires. Là, elle a raison. Enfin, elle a raison, mais en même temps, là, du coup, c'est une vision de droite, je dirais bêtement de droite. Je sais pas jusqu'où Mauriac pense la même chose que Thérèse, là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Bêtement de droite, là, c'est bêtement sarkozyste, il veut une France de propriétaires. Et puis en plus, surtout, une ânerie, en plus, dire que le plus pauvre est propriétaire quand même. Oui, alors c'est facile à dire, hein, quand on est riche comme Mauriac. D'ailleurs, je vais lire un petit passage qu'Aragon a écrit sur Mauriac, nom de Dieu. Ça, c'est au début du livre, là, il y a une super, dans mon édition, c'est assez génial. Il y a beaucoup d'informations sur la biographie, sur l'époque, etc. Alors, je crois que c'est... alors, c'est Sartre qui n'aimait pas Mauriac. Mais c'est un peu la génération d'avant, c'est aussi normal. Alors, je vais dire quelques trucs. Jean-Paul Sartre. Pourquoi cet auteur sérieux et appliqué n'a-t-il pas atteint son but? Ça, c'est lui qui le dit, hein. C'est péché d'orgueil, je crois. Monsieur Mauriac, c'est préféré. C'est préféré. Il a choisi la toute connaissance et la toute puissance divine. Mais un roman est écrit par un homme, pour des hommes. Au regard de Dieu, qui perce les apparences sans s'y arrêter, il n'est point de roman. Il n'est point d'art, puisque l'art vit d'apparence. Dieu n'est pas un artiste, monsieur Mauriac non plus. Pfff, quelle connerie. Il me donne pas envie de le lire, hein, Sartre. Alors, Blaise Cendrars. Cette vieille toupie de Mauriac m'ennuie. Il n'a donc pas d'amis pour lui conseiller de ne pas parler du bon Dieu dans les journaux à 15 francs. C'est rigolo, ça. C'est rigolo. Alors, tac-tac-tac, correspondant. Il y a aussi une critique de... Il faut que je trouve le passage... Ah oui, Louis Aragon. Ça casse, hein. Cette poésie du regret, du retour au passé à l'enfance, est avant tout symptomatique de la crainte qu'a toute une catégorie sociale. Non, monsieur Mauriac est le porte-parole. De voir disparaître à jamais ses privilèges, ses propriétés, la bonne vie poétique a bâillé sur des albums et dans les housses du salon maternel. Wouah ! Magnifique quand même, hein. Là, on sent que... Mais là, il y a quelque chose, hein. Quelque chose. Mais enfin, il a... Alors, un passage. Voilà, c'est Azevedo, je crois, qui parle à Thérèse. Pour le reste, il ne doutait point que Mademoiselle de Latrave lui dût les seules heures de vraie passion qu'il lui serait sans doute donné de connaître durant sa morne existence. Vous me dites qu'elle souffre, madame, mais croyez-vous qu'elle ait rien de meilleur à attendre de sa destinée que cette souffrance ? Magnifique, hein ? Et un peu plus loin, je ne me souviens plus si je fus crispé, alors ça c'est Thérèse, si je fus crispé par cet excès de prétention, d'affectation, ou si même j'y fus sensible. Ouais, bah... Je ne me souviens plus parce qu'elle était sous le charme. Et d'ailleurs, quand elle y repense, elle est vraiment gênée, quoi. Mais, oh, c'était des mots, mais oh, j'aurais pas dû me sentir troublé, ça n'était que des mots. D'ailleurs, à la fin, à Paris, elle pense à aller le voir, éventuellement. Au début, elle voulait y aller la première après-midi. Puis finalement, elle s'est dit non, je n'irai pas. Elle s'est sentie libérée. Est-ce qu'elle ira plus tard? On ne sait pas. Et Jean Azevedo lui dit « C'est un jouisseur, quoi. » « Mais comment peut-on se fixer, madame ? Chaque minute doit apporter sa joie, une joie différente de toutes celles qui l'ont précédée. » Ouais. Ouais. Alors, passage suivant, c'est quand elle se demande comment elle va parler à Bernard en rentrant. Soudain, Elle avait cru voir ce qu'il importait qu'elle fît. La seule approche de cet homme avait réduit à néant son espoir de s'expliquer, de se confier. Les êtres que nous connaissons le mieux, comme nous les déformons dès qu'ils ne sont plus là. Ça, j'aime bien cette phrase parce que... Ouais, on est sans cesse là-dedans. Le retour de l'être idéal, à chaque fois il y a le conflit entre la vision transformée de l'autre et le réel, et ça c'est vrai. Enfin c'est vrai, bon, ça c'est vrai. C'est... Moi j'ai cette impression aussi, voilà. Et déjà Thérèse ouvre la bouche, elle dit « Laissez-moi disparaître, Bernard ». Au son de cette voix, Bernard s'est retourné. Du fond de la pièce, il se précipite, les veines de la face gonflées, balbutie. « Quoi ? Vous osez avoir un avis ? Émettre un vœu ? Assez, pas un mot de plus ! » Vous n'avez qu'à écouter, qu'à recevoir mes ordres, à vous conformer à mes décisions irrévocables. Il ne bégait plus. Rejoint maintenant les phrases préparées avec soin. Appuyé à la cheminée, il s'exprime d'un ton grave, tire un papier de sa poche, le consulte. Thérèse n'a plus peur, elle se moque de lui, il est grotesque. Peu importe ce qu'il dit avec cet accent ignoble, qui fait rire partout ailleurs qu'à Saint-Clair, elle partira. Ce qu'elle croit. Pourquoi tout ce drame ? Cela n'aurait eu aucune importance que cet imbécile disparu du nombre des vivants. Voilà, c'est le passage dont je parlais. Elle remarque sur le papier qui tremble, ses ongles mal tenus. Il n'a pas de manchette. Il est de ces campagnards ridicules hors de leurs trous et dont la vie n'importe à aucune cause, à aucune idée, à aucun être. C'est par habitude que l'on donne une importance infinie à l'existence d'un homme. Robespierre avait raison. Et Napoléon et Lénine. Il la voit sourire, s'exaspère, hausse le ton. Bon, là, la suite... Mais voilà, là, c'est sublime, ce passage. Bon, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler, mais c'est vrai que c'est... Je trouve qu'il démontre bien ça, hein. Pour un écrivain chrétien, c'est... Putain. Il accepte de foutre le doute, quand même, hein. Moi, je dis... Hein. Alors, ensuite... Un petit passage. Il pleuvra jusqu'à la fin du monde. Si elle avait de l'argent, elle se sauverait à Paris. Irait droit chez Jean Azevedo, se confierait à lui. Il saurait lui procurer du travail. Être une femme seule dans Paris, qui gagne sa vie, qui ne dépend de personne. Être sans famille. Ne laisser qu'à son cœur le soin de choisir les siens. Non selon le sang, mais selon l'esprit. Et selon la chair aussi. Découvrir ses vrais parents, aussi rares. Aussi disséminés fussent-ils. Alors là, c'est génial, hein, parce que là, c'est vraiment révolutionnaire. Hein, c'est du 68 art, c'est du féminisme avant l'heure. Enfin, avant l'heure. Sade aussi avait fait des choses comme ça. Mais n'empêche que tout est là. C'est-à-dire que oui, il comprend à quel point une femme a le besoin de liberté, quoi. Le besoin de liberté, se choisir une famille qu'on aime et pas subir tout le temps, toujours tout subir, ne rien choisir. C'est, je trouve que c'est très beau. Et là, là, on peut dire encore une fois qu'il est progressiste, hein, moi je trouve, Mauriac. Mais bon, c'est point de vue, mais là je trouve très progressiste. Alors, 109. Thérèse lisait dans la pensée de la jeune fille, de Anne en fait, hein, c'est à la fin du roman. Elle me méprise parce que je ne lui ai pas d'abord parlé de Marie. Comment lui expliquer? Elle ne comprendrait pas que je suis rempli de moi-même. Là, on parle du fait que Thérèse ne s'intéresse pas à son enfant Marie, et Anne lui en veut pour cela. Comment lui expliquer? Elle ne comprendrait pas que je suis rempli de moi-même et que je m'occupe tout entière. Anne, elle, n'attend que d'avoir des enfants pour s'anéantir en eux, comme a fait sa mère, comme font toutes les femmes de la famille. Moi, il faut toujours que je me retrouve. Je m'efforce de me rejoindre. Je m'efforce de me rejoindre. Voilà, c'est l'inconscient et le conscient. Encore une fois, c'est le se rejoindre qui est moins un gouffre entre la Thérèse qui possède les terres, etc., et celle qui est capable de tuer Bernard sans même vraiment comprendre pourquoi. Je m'efforce de me rejoindre. Elle n'est pas un, Thérèse, et elle l'assume à un point. Anne oubliera son adolescence contre la mienne. Les caresses de Jean Azevedo, dès le premier vagissement du marmot que va lui faire ce gnome, sans même enlever sa jaquette. Les femmes de la famille aspirent à perdre toute existence individuelle. C'est beau ce don total à l'espèce. Je sens la beauté de cet effacement, de cet anéantissement. Mais moi... C'est quand même là terrible, hein. C'est magnifique. Hein. C'est vachement drôle en plus. C'est beau. C'est beau. Alors là, c'est entre Bernard et Thérèse. Les époux s'étonnaient de ce qu'entre eux subsistait si peu de gêne. Thérèse songeait que les êtres nous deviennent supportables dès que nous sommes sûrs de pouvoir les quitter. Ouais, alors ça, c'est peut-être le plus terrible. Mais je comprends ce qu'il veut dire aussi. Je l'ai souvent ressenti, ce... Voilà, il suffit de se dire que tout peut s'arrêter et tout est supportable. C'est ce qui fait aussi, effectivement, à l'inverse, on entend souvent le cliché de la peur du mariage, de se dire, ah bah ça, toute ma vie, c'est l'inverse, c'est vraiment le saisissement inverse. On aime l'autre, mais tout à coup, se dire que non, c'est toute la vie, ah là, il y a une angoisse. Bon, c'est tout, il n'a rien inventé, mais c'est bien dit quand même. Parce que, en plus, c'est dit de façon terrible, là. Enfin, j'aime bien ça. Bon, ça, j'ai déjà lu. Tous les passages de fin, j'ai déjà lu. Voilà. Bon, bah, c'était Thérèse d'Esquerou. Je vais lire les suites parce qu'il y a. Je l'ai relu, en fait, ce livre, parce que j'avais déjà. Je l'ai lu il y a quelques années, mais. Je voulais lire la suite. Ça s'appelle La fin de la nuit. Le problème, c'est que. C'est que je voulais me remémorer le premier roman avant d'attaquer le deuxième. Et je vois que dans mon édition, il y a aussi deux autres nouvelles qui s'appellent Thérèse chez le docteur et Thérèse à l'hôtel, qui sont deux petites plongées dans la vie. D'ailleurs, ça s'appelle les plongées au pluriel, qui sont deux plongées dans la vie de Thérèse. Et là, il y a un avant-propos de Mauriac, je pense, très court, qui est intéressant. Plusieurs qui n'ont pas oublié Thérèse d'Esquerou m'interrogent souvent sur sa vie. Depuis la seconde où je l'abandonne, au seuil d'un restaurant de la rue Royale, jusqu'à sa dernière maladie, dans La fin de la nuit. C'est-à-dire que, c'est ça. En fait, si je veux respecter l'ordre d'écriture, il faut que je lise La fin de la nuit, puis les nouvelles qui sont pourtant entre les deux. Un chapitre de ce qui était perdu nous permet de l'entrevoir une nuit sur un banc des Champs-Élysées. Puis nous perdons sa trace. Les nouvelles Thérèse chez le docteur et Thérèse à l'hôtel, écrites en 33, représentent deux tentatives de plongée dans les périodes obscures de ce destin. Donc je pense que je dirai La fin de la nuit et ensuite les deux nouvelles. Respecter l'ordre d'écriture plutôt que l'ordre chronologique, ça m'intéresse plus. Voilà. Donc la suite plus tard.